Merveilleux, ça marche. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Ça fait un bon bout de temps que j'avais à cœur d'aborder avec vous plus en détail un sujet que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit du baptême. Dans la Bible, nous trouvons le baptême de Jean, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont tous deux des baptêmes d'eau, et nous trouvons également le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Je voudrais passer rapidement sur le baptême de feu. On trouve cette expression chez Matthieu et Luc. C'est Jean le Baptiste qui dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » La Bible annotée nous précise « L'esprit et le feu ne sont pas deux choses différentes, mais l'un est l'image de l'autre. » Le feu est le symbole de l'esprit en tant qu'il pénètre avec une irrésistible puissance et purifie les métaux les plus durs. L'or, par exemple, ressort du creuset avec toute la pureté qui le rend si précieux. Telle est l'action de l'Esprit Saint sur le cœur et sur la vie de l'homme. Et c'est aussi sous ce symbole des langues de feu que l'Esprit Saint est descendu au jour de la Pentecôte. Mais le feu symbolise également le feu du jugement divin pour ceux qui n'ont pas été purifiés du péché et de la souillure. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, le baptême de feu est à la fois synonyme du jugement par lequel le Seigneur, à son retour, consumera les pécheurs qui n'ont pas accepté son salut, et aussi synonyme de baptême dans le Saint-Esprit, purificateur pour les élus. Mis à part le baptême de feu, nous avons encore le baptême de Jean, le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, appelé le plus souvent baptême d'eau ou simplement baptême, et le baptême du Saint-Esprit. Nous trouvons ces trois baptêmes évoqués par Luc dans le livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. » Paul leur demanda alors « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient une douzaine en tout. Le baptême de Jean était un baptême de repentance, un baptême destiné aux personnes qui reconnaissaient leurs péchés et décidaient de manifester publiquement leur choix de changer de comportement en vue de préparer la venue du Messie. C'était un baptême qui préparait le peuple à accueillir le Messie attendu. Et Jean le Baptiste lui-même disait « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean a clairement annoncé le baptême du Saint-Esprit, un baptême différent de celui qu'il a lui-même proclamé et autrement plus important que le sien, puisqu'il a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean a dit « Il faut que Jésus croisse et que je diminue ». Alors je vous propose d'examiner maintenant plus en détail le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le premier a été institué par Jésus lui-même au début de son ministère terrestre. Et le second, annoncé par Jean, comme nous venons de le voir, a été promis par Jésus tout à fait à la fin de son ministère terrestre, juste avant son ascension vers le Père. Le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou baptême par la foi au nom de Jésus, est le premier signe que Jésus a institué et pratiqué quand il a fait ses premiers disciples. L'apôtre Jean nous dit « Jésus et ses disciples allèrent en Judée. Il y resta quelque temps avec eux et il baptisait. » Jean le Baptiste, cette fois, aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens venaient à lui et il les baptisait. En effet, dit le texte, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors, quelques-uns des disciples de Jean commencèrent à discuter avec un juif au sujet des rites de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dire « Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage ?» Eh bien, il baptise maintenant, et tout le monde va le voir. Jean leur répondit, « Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne le lui a pas donné. Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Jean, l'apôtre, précise même qu'en fait, ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il dit, « Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. » Mais à vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples qui le faisaient. Quoi qu'il en soit, ce baptême a été institué par Jésus-Christ lui-même. Et dans toute la suite, je l'appellerai simplement baptême. Il a été institué par Jésus-Christ lui-même. C'est aussi un ordre du Seigneur. Si Jésus a effectivement institué le baptême au début de son ministère terrestre, tout à fait à la fin de ce même ministère, peu avant son ascension, Jésus nous a donné un ordre. « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc le baptême, ordre de Jésus, fait de nous un disciple de Jésus. Du latin discipulus, qui veut dire élève ou apprenti. J'aime bien ce terme de disciple, parce qu'il marque à la fois le fait que nous soyons acceptés, on pourrait dire inscrits sur la liste des élèves, et que nous sommes encore en devenir. Il est tout à fait courant de dire qu'on apprend toute sa vie, c'est un lieu commun. Mais ce terme de disciple montre que nous sommes appelés à progresser en entrant à l'école du Seigneur, avec ses jours de paix et ses jours de formation, plus ou moins intenses. Je pense que vous le connaissez, même parfois violents. La formation, elle est parfois... Elle nous secoue parfois, hein, mais toujours sous la houlette de notre Seigneur. Aujourd'hui, on dit chrétien, du latin Christianus, qui veut dire petit Christ. Mais le terme de disciple est pour moi plus parlant, même si bien sûr devant le monde, je me dis chrétien. Donc, le baptême a été institué par le Seigneur, c'est un ordre du Seigneur qui fait de nous un disciple. De plus, le baptême nous associe à la mort de Jésus pour le pardon des péchés. Nous avons parlé de ce pardon ce matin, dans Ésaïe en particulier. Le baptême nous associe à la mort de Jésus pour le pardon des péchés et nous ouvre à une vie nouvelle. L'apôtre Paul, parlant aux Romains, dit « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort ?» Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. C'est notre espérance que nous avons rappelée tout à l'heure aussi, dans Ésaïe et dans nos chants. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. C'est pas comme dans l'Ancien Testament, il n'y a pas besoin de refaire les sacrifices tous les jours, toutes les grandes fêtes, toutes les semaines, etc. Il est mort au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. Et de même, nous dit l'apôtre Paul, vous aussi, nous aussi, considérons-nous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Nous avons là une affirmation. L'affirmation que chacun de nous, croyant et baptisé, est une nouvelle créature déjà maintenant sur cette terre. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas après notre mort. Déjà maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Même si nous nous savons encore faibles en notre chair, nous savons que nous ne devons plus pécher volontairement. et que si nous péchons involontairement, comme ça nous a été encore rappelé tout à l'heure, nous avons la possibilité de demander pardon au Père par Jésus-Christ, en étant assurés de ce pardon. Si toutefois, notre démarche est sincère, on ne ment pas à Dieu. Donc le baptême nous associe à la mort de Jésus pour le pardon des péchés et nous ouvre à une vie nouvelle dès maintenant. L'apôtre Paul, s'adressant à Tite, dit « Rappelle aux fidèles qu'ils doivent se soumettre aux dirigeants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir en étant prêts à faire toute action bonne. » Je ne sais pas si nous sommes toujours prêts vis-à-vis de nos dirigeants à faire toute action bonne. Rappelle aux fidèles qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils soient pacifiques et bienveillants, et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les hommes. Je répète ce second verset. Rappelle aux fidèles qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils soient pacifiques et bienveillants, et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les hommes. Si c'est pas une vie nouvelle, ça, et Paul enfonce le clou. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables aux autres et nous nous haïssions les uns les autres. Tout un programme. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés. Oh, non point que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Car Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, il nous rend justes à ses yeux et nous permet de recevoir la vie éternelle, dès maintenant, la vie éternelle que nous espérons. Voilà une parole certaine, dit l'apôtre Paul, et je veux que tu insistes sur ces choses, dit-il à Tite, afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Encore une fois, si c'est pas une vie nouvelle, ça. Le baptême institué par le Seigneur, ordre du Seigneur, fait de nous un disciple, nous associe à sa mort pour le pardon des péchés, nous ouvre à une vie nouvelle dès à présent, avec en prémisse notre vie éternelle. Le baptême est aussi un acte de foi, un témoignage de notre conversion. Au passage, je vous propose quelques réflexions sur la conversion. Conversion. Se convertir. En grec, épistrophé. Action de se retourner. De se tourner vers. On pourrait presque dire de retourner notre vie. La conversion est un changement complet d'orientation. Une volte-face de l'être tout entier pour nous tourner vers le Seigneur. Le pécheur fait résolument demi-tour pour marcher désormais sur le chemin de la vie éternelle. Cette conversion est absolument nécessaire au salut. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. car l'homme le plus moral et le plus religieux est encore un pécheur, c'est-à-dire un révolté contre Dieu, mort dans ses fautes et dans ses péchés. Il aura toujours besoin de la conversion et de la nouvelle naissance sans laquelle nul n'entrera dans le royaume de Dieu. Que ce soit l'homme le plus moral ou la femme la plus morale, c'est la même chose. Un pasteur distingue quatre phases consécutives dans la conversion. La repentance, 2, la foi, 3, la conversion ou décision, et 4, le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut discuter cette démarche en 4 points. Mais ce que j'y trouve d'intéressant, c'est que ces 4 phases de la part du converti sont associées à 4 phases parallèles de la part de Dieu. J'y vois un accompagnement divin, l'action du Saint-Esprit en nous, qui s'inscrit complètement dans le plan de Dieu pour chacun de nous. En fait, chacune des 4 phases, repentance, foi, conversion, décision et baptême, est précédée par une phase de la part de Dieu. La conviction de péché précède la repentance. L'attraction vers le Seigneur Jésus-Christ précède la foi. L'assurance du pardon de nos péchés et du salut de notre âme précède la conversion proprement dite, la décision. Et le don de la vie éternelle, par la nouvelle naissance, précède le baptême. Le converti, en fait, répond à chaque phase à l'appel de Dieu en Jésus-Christ. On a l'appel de Dieu et on a la réponse du converti. La conviction de péché précède la repentance. Le premier point a des degrés divers pour chacun, c'est différent pour chacun d'entre nous. Le premier point, c'est la conviction de péché. Un beau jour, je ne sais pas pour vous, hein, mais un beau jour, on prend conscience de l'écart immense, du gouffre infranchissable qui sépare d'une part la justice et la perfection de Dieu, et d'autre part notre fausse façon d'envisager la justice, notre péché, notre imperfection naturelle et permanente. Souvent, par le passé, on s'est dit « finalement, je ne suis pas si mal que ça ». Hein? Je ne vole pas, je ne dis pas de faux témoignages. Même si je me moque un peu parfois, ça n'a jamais tué personne. Etc., etc. J'en passe et peut-être pas des meilleurs. Oh, certes, on a tous dans sa vie, je parle en tout cas pour moi, quelques actes dont on n'est pas bien fier. Mais au global, on peut quand même se regarder dans la glace le matin, sans partir en courant. Bref, on se rassure comme on peut. Et tout à coup, la conviction de péché produite par le Saint-Esprit nous tombe dessus. Ce peut être consécutif à une lecture biblique, à un souvenir que le Saint-Esprit vient de faire remonter, à une parole donnée par un frère ou une sœur qui, sans même s'en rendre compte, vient d'enfoncer le couteau dans une plaie que nous portons en nous depuis longtemps. Ce peut être face à une situation imprévue, dans la rue ou à la maison. Ce peut être un accident ou un événement particulièrement heureux. Il n'y a pas de limite aux situations que le Saint-Esprit va utiliser pour nous faire prendre conscience de notre péché et de la somme incommensurable de dettes que nous avons accumulées vis-à-vis de notre Dieu. Me vient l'image de l'asymptote en géométrie. Souvenez-vous, l'asymptote, c'est une droite de laquelle une courbe s'approche de plus en plus près, de plus en plus près, mais sans jamais pouvoir la toucher. Nous pouvons nous croire prêts à toucher la droite de la perfection, mais quoi que nous fassions, nous ne pouvons que nous en approcher sans jamais la toucher. Quelle que soit la somme d'efforts faits pour nous rapprocher de la droite de la perfection, il nous restera infiniment d'efforts à faire pour finalement ne pas la toucher. Quelle que soit la somme d'efforts que nous pouvons faire pour améliorer notre conduite aux yeux de Dieu, il nous resterait infiniment plus d'efforts à faire pour y parvenir. C'est la conviction de péché, la prise de conscience que nous sommes incurables du péché par les moyens humains. Chape de plomb, silence pesant. Si on s'arrête là, vu l'énormité de notre péché, de notre dette vis-à-vis de Dieu, on est complètement démoralisé, désespéré, à la dérive, on touche le fond. C'est la conviction de péché, une prise de conscience douloureuse. Mais si le Saint-Esprit nous a ainsi convaincus de péché, ce n'est pas pour nous écraser. Hein, c'est pas comme les Romains, hein, c'est pas comme ça. Ce n'est pas pour nous écraser. Ce n'est pas pour nous abandonner sans aucune solution. Ce n'est pas pour rien. Car cette conviction, cette certitude du fait que nous sommes pécheurs ouvre la porte à notre conscience et notre conscience nous conduit à la repentance. La repentance, en grec métanoïa, signifie changement de mentalité, changement de sentiment. Elle est marquée par une profonde tristesse d'avoir offensé Dieu. C'est là que nous aimerions bien recommencer, vous savez, rejouer la scène. On se la refait. Hein? Mais c'est pas possible. C'est impossible. Et même si nous pouvions la rejouer, peut-être que la nouvelle scène serait pire que la première. Nous sommes tellement englués dans notre péché. Quoi qu'il en soit, cette repentance nous pousse à chercher à sortir de notre situation. La conviction de péché précède la repentance, première étape vers la conversion. Et heureusement vient l'étape suivante. Comme je l'ai dit un peu plus haut, si le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour rien. En effet, c'est bien souvent là que nous allons peut-être entendre pour la première fois ce qui nous a été dit tant de fois par le passé. Vous savez, ce qui est entré par une oreille est sorti par l'autre. Ce qui nous a été répété tant de fois à l'école du dimanche, au culte, dans la famille, au groupe de jeunes, dans des réunions de partage ou par un ami ou une amie. C'est bien souvent là que nous allons repenser au Seigneur Jésus. C'est la deuxième étape que nous appellerons l'attraction vers le Seigneur. L'attraction vers le Seigneur précède la foi. La foi se situe entre la repentance et la conversion. La repentance seule ne peut effacer nos péchés. Et la conversion seule ne peut nous amener à changer de vie. La foi, c'est ce moment un peu mystérieux dans lequel se situe notre propre démarche et à la fois notre propre démarche et l'action de Dieu dans notre cœur pour nous attirer à son Fils. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit, a dit Jésus. Par le chemin de la prise de conscience de notre état de pécheur, Dieu nous conduit à la repentance, et cette repentance nous conduit à chercher des solutions pour sortir de notre triste situation. Cette recherche est une porte ouverte au Saint-Esprit pour nous rendre sensibles à l'attraction vers le Seigneur Jésus-Christ. Peu à peu, cette attraction nous mène à la foi. Alors pour certains, ça peut être d'un seul coup, pouf. D'un seul coup. J'ai compris, je crois, je sais. Pour d'autres, ça peut être au fil des années. En effet, plus nous apprenons à connaître le Père et le Fils, plus notre foi augmente. Nous apprenons que Dieu a un plan en Jésus-Christ pour nous sortir de notre impasse. C'est la deuxième étape, l'attraction vers le Seigneur Jésus qui précède la foi. Puis nous découvrons l'assurance du pardon de nos péchés et l'assurance du salut de notre âme. C'est la troisième étape. Nous savons maintenant que par nous-mêmes, par nos propres forces, en voulant faire tout seul, nous sommes incapables de sortir de notre état de péché incurable. Alors Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » vient vers nous à double titre. Premièrement, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Et à second titre, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de sortir de notre état de péché incurable. Alors, du fond de notre désespoir, l'assurance du pardon de nos péchés et l'assurance du salut de notre âme nous conduit à la conversion, à la décision. Tout est devant nous, mais le choix nous appartient. De même que l'Éternel, par la bouche de Moïse, avertit solennellement le peuple hébreu de la part de Dieu, de même, ce verset du Deutéronome nous met devant le choix. « Je vous avertis solennellement aujourd'hui, dit Dieu. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. » Deutéronome 30, 19. Nous aussi, arrivés à ce stade, il nous faut choisir, il nous faut décider. La balle est dans notre camp. Personne d'autre que nous peut choisir à notre place. C'est une décision personnelle. C'est la conversion. Dieu nous a permis de découvrir notre situation de pécheur. Il nous propose de lui faire confiance, de faire un acte de foi et de choisir la solution, la seule, le cadeau qu'il nous offre en son Fils. Et quel est exactement ce cadeau? Le don de la vie éternelle par la nouvelle naissance, qui précède le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qui précède le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que la démarche s'achève. La conviction de péché précède la repentance, l'attraction vers le Seigneur Jésus précède la foi, l'assurance du pardon de nos péchés et du salut de notre âme précède la conversion, et le don de la vie éternelle par la nouvelle naissance précède le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que le baptême du Saint-Esprit. Alors, en synthèse, le baptême institué par le Seigneur est un ordre du a été institué par le Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Ce baptême nous fait de nous un disciple de Jésus, un élève en perpétuelle formation jusqu'à ce que nous le rencontrions face à face. Il nous associe à sa mort pour le pardon des péchés et nous ouvre à une vie nouvelle dès à présent avec en prémisse notre vie éternelle. Le baptême est aussi un acte de foi, un témoignage de notre conversion, un témoignage de notre engagement à être disciple. La foi des hommes et des femmes qui se font baptiser précède le baptême. Elle est indispensable pour être baptisé. Elle est la motivation même du baptême. Le baptême d'eau est la démonstration, la confession de notre foi, la preuve visible que nous croyons au Seigneur Jésus de tout notre cœur, la concrétisation de notre décision de suivre Jésus. Il est l'acte visible et tangible de notre décision à l'égard du Seigneur. Le baptême d'eau est aussi un acte d'obéissance à la parole de Christ, un acte convenable et juste de la part de celui qui se dit croyant. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.